La 7, c'est 6 magasins pour vous accompagner dans tous vos projets. Construire, rénover, aménager. Retrouvez nos bons plans sur Facebook ou sur 7.nc. Info Matin, Nicolas Legrand.
Une baisse d'environ 10% des prix sur 120 produits très consommés par les Calédoniens. Un accord a été signé hier au gouvernement pour lutter contre la cherté de la vie. Sudpro relancé, le dispositif d'aide aux petites entreprises a rencontré un tel succès que la province Sud a décidé de débloquer une nouvelle enveloppe de 480 millions de francs. 2 morts, 17 blessés, c'est le bilan des violents orages qui ont traversé la métropole d'est en ouest après une vague de chaleur. Reportage à suivre dans ce journal. François Bayrou vante les avancées du conclave sur les retraites. Aucun accord n'a pourtant été trouvé entre les partenaires sociaux, mais le Premier ministre souhaite rouvrir de nouvelles discussions. Le sport, du tennis, 15 Français qualifiés pour le tableau principal de Wimbledon. Cette nuit pour nous, Elsa Jacquemot, Diane Parry, Adrian Manarino, Valentin Royer et Arthur Cazot ont remporté leur 3e tour des qualifications. La météo en Nouvelle-Calédonie, hormis sur l'extrême nord-est, le ciel est très souvent très nuageux, avec par endroits quelques ondées. Le mercure oscille entre 24 et 26 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et elle a une actualité économique sur le territoire.
Oui, avec la mise en place hier d'un accord interprofessionnel de modération des prix pour 2025. Il a été signé entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les acteurs du secteur, Léo Fichou.
Oui, le gouvernement s'est engagé déjà en mai dernier avec l'accord cadre sur les réformes sociales et fiscales à redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens et à soutenir la consommation des ménages. Christopher Gigès, membre du gouvernement, en charge notamment de l'économie, a donc signé un accord interprofessionnel de modération des prix en 2025. Un accord qui prévoit la baisse d'environ 10% des prix sur 120 produits de première nécessité ou bien de grande consommation. L'accord engage les professionnels à répercuter au franc le franc les baisses de droits et taxes. Des professionnels qui étaient d'ailleurs présents lors de la signature de cet accord. Des représentants des industries locales, de transformation, de l'importation et de la grande distribution. Marie-Amélie Moglia, première vice-présidente de la FINC.
C'est important, je pense, de la part des industriels, mais également du monde économique, de donner un signal fort aux consommateurs calédoniens. On est tous embarqués dans la même aventure, si je puis dire, donc à chacun de faire un effort au niveau qui lui est possible. Ça, c'était absolument primordial. Il faut donner de la visibilité et des gages de confiance au monde économique, industriel en particulier, au regard des investissements que les outils industriels représentent, pour voilà, redynamiser justement l'injection de fonds dans la consommation, dans le territoire, et puis redynamiser l'économie.
Une démarche volontariste des syndicats professionnels, importateurs, entreprises et commerçants. Ronan Délé, président du syndicat des commerçants, est satisfait de cet accord, mais reste vigilant, ce n'est qu'une première étape.
C'est un signal positif, disons, c'est une étape, hein, uniquement. La vie chère en Nouvelle-Calédonie est extrêmement pénible pour une grande majorité de la population. Donc voilà, c'est déjà une chose de faite pour aider les Calédoniens à avoir un meilleur pouvoir d'achat. Mais bon, ça doit être qu'une étape avant d'autres mesures qui permettent d'accroître leur pouvoir d'achat. Parce qu'à ce rythme-là, si rien n'est fait, on va dans le mur. Ce qu'il faudrait, c'est que le marché puisse redevenir attractif. Ça, c'est un point vraiment clé. Avec une concurrence qui s'accroisse justement pour pouvoir jouer sur les prix, que les commerçants puissent commenter davantage, négocier leurs prix et évidemment que l'emploi puisse revenir parce qu'il y a tellement de gens maintenant qui sont sans emploi que ça pose un réel souci à la Nouvelle-Calédonie. Donc beaucoup de facteurs économiques à prendre dans leur ensemble pour pouvoir relancer la Calédonie, mais le chemin est long, mais voilà, une étape de franchie.
De son côté, Laurent Vircondelet, président du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie, rappelle que tout le monde doit participer à la baisse des prix.
Pour que tout le monde participe à cette chaîne, donc sur ces 120 produits, on l'a fait nous, on a pris sur nous, importateurs, distributeurs, mais sur la future liste de PPN qui va arriver dans les mois à venir, il va falloir vraiment que tout le monde participe, le fret maritime, les débarquements et tout, dans toute l'étape de constitution d'un prix de revient, quoi.
Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner ?
Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir baisser des prix de première nécessité. Voilà. Pas des prix de produits de grande consommation, non de produits de première nécessité.
Cet accord interprofessionnel de modération des prix en 2025 prendra effet dès le 1er juillet. pour une période d'un an, avec une révision des prix à la mi-parcours, soit fin décembre, début janvier prochain. Christopher Gigès souhaite également, dans le secteur public, que le secteur public, OPT et OSEF notamment, emboîtent le pas du secteur privé.
Un accord sur lequel nous reviendrons à 7h30. C'est en effet Christopher Gigès qui sera notre invité du matin. L'occasion aussi de dresser avec lui un bilan de la participation des start-up calédoniennes au salon Vivatech et de parler du projet de construction d'une centrale de stockage d'électricité dont le financement est porté par une société privée à hauteur de 9 milliards de francs. Et puis, je le disais en titre, la province Sud relance le dispositif SudPro, créé pour aider les petites et les très petites entreprises qui ont été les oubliées de la crise générée par les émeutes. La province donne donc une nouvelle vie à ce dispositif, mais avec des adaptations, Léo.
9413 entreprises sont désormais inscrites sur la plateforme SudPro, pour laquelle la province Sud avait dégagé une somme d'un milliard de francs avant de rajouter 200 millions. En 11 jours, 8546 entreprises ont pu bénéficier des crédits Sud à hauteur maximale de 250 000 francs. En dressant le bilan de cette première phase, la présidente de la province Sud a salué l'utilité et le succès de ce dispositif qui doit continuer à vivre. Mais il fallait tirer les enseignements de la première session pour adapter le dispositif et faire en sorte qu'il profite au plus grand nombre.
L'idée, c'est d'adapter le dispositif en fonction de la manière dont il a fonctionné la première fois. La première fois, on constate d'une part que le commerce a énormément bénéficié du système, 715 millions de dépenses qui ont été faites dans le secteur du commerce. Donc on reflèche nos aides pour que les autres secteurs soient aussi touchés. Et aussi le fait que les gens n'ont pas eu le temps de faire les devis, parce que quand c'est des devis compliqués, c'était plus simple dans le commerce, mais quand c'était des devis compliqués, ils n'avaient pas le temps. D'où le fait qu'on prévient à l'avance de la prochaine ouverture le 31 juillet.
Le secteur du commerce ne bénéficiera pas des nouvelles cessions du SudPro pour permettre à d'autres donc secteurs d'en profiter. Par exemple, la production, fabrication, l'agriculture et la pêche, le numérique hors vente de matériel, les services et bien sûr le BTP.
Dans le BTP, il y a de toutes les tailles, hein, c'est-à-dire qu'il y a des tout petits travaux. On a des travaux d'électricité, de peinture, de carrelage qui sont des petites factures. Dans tous les secteurs, en fait, on a de tout. Là, vraiment, c'est l'idée, c'est que la province aide à hauteur de 250 000 francs pour que les petites entreprises travaillent le plus possible entre elles.
A noter également que la commande publique sera intégrée à SudPro. Il s'agit toujours, explique Sonia Baquès, que le plus grand nombre d'entreprises puissent bénéficier de l'aide de ce dispositif.
En fait, on a beaucoup de remarques comme quoi, pour les consultations, pour les petites dépenses c'est moins de 10 millions, beaucoup de petites entreprises nous disent « nous, on ne sait pas faire, on n'est pas consulté, pourquoi c'est toujours les mêmes qui sont consultés ?» Là, l'idée, c'est que via la plateforme SudPro, ils vont pouvoir s'inscrire sur toutes les consultations que la province fera pour des montants en dessous de 10 millions. Donc quand on est peintre, par exemple, ben on va pouvoir être consulté sur tous les travaux de peinture qui seront effectués par la province Sud.
Mais qui prendra la décision finale d'attribuer à telle ou telle entreprise ?
Ah, ça reste la direction qui le fera toujours avec les mêmes principes, c'est-à-dire le mieux disant, souvent le moins cher, mais aussi la qualité qui est proposée.
Parmi les autres changements, la vérification par les services de la province de la conformité des demandes qui sera effectuée au moment du dépôt des devis et non au moment du règlement des factures. La prochaine session de SudPro débutera le 31 juillet. Trois autres sessions suivront à partir du 21 août, du 12 septembre et enfin du 4 octobre. Chaque session bénéficiera d'une dotation de 120 millions.
Économie toujours, 10 millions d'euros ce coup-ci pour le lancement du fonds de co-investissement Territoire d'innovation Nouvelle-Calédonie. À destination des jeunes entreprises innovantes dans le domaine de la valorisation de la biodiversité calédonienne. Il s'agit d'un partenariat entre le gouvernement, la Banque des Territoires pour le compte de l'État et la plateforme d'investissement participatif Invest in Pacific qui rentre dans le cadre de France 2030. La Banque des Territoires fournit 5 millions d'euros pour financer ces entreprises et le reste sera disponible via Invest in Pacific et donc l'épargne privée des Calédoniens. Les Calédoniens qui auront donc leur mot à dire sur les projets sélectionnés, comme l'explique Nicolas Laurent, le cofondateur d'Invest in Pacific.
C'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui nous présente certains projets. Nous, on a toute une équipe de spécialistes qui vont étudier, structurer les projets et ensuite on décidera en commun ou pas de présenter ces projets aux investisseurs. Moi, mon métier en tant qu'acteur agréé par l'autorité des marchés financiers, c'est de protéger et de maximiser l'épargne des investisseurs. Je dois vraiment protéger l'argent des petits investisseurs. Donc là-dessus, bien entendu, on n'ira que sur des projets qui nous paraissent rentables. Après, attention, investir dans l'économie réelle, il y a toujours du risque. Une société peut toujours faire faillite, bien entendu. Mais notre métier à nous, c'est de nous assurer qu'on choisit les sociétés qui paraissent les plus viables, les plus rentables et celles qui auront le plus de chances de réussir.
Un prochain rendez-vous est déjà fixé dans 15 jours pour évoquer les premiers projets sélectionnés. 4 sont déjà en cours d'étude.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, l'accord interprofessionnel qui prévoit la baisse des prix d'un certain nombre de produits de première nécessité ou de grande consommation. Aura-t-il, selon vous, un impact sur le pouvoir d'achat des Calédoniens? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à la question d'hier à présent, 83% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le sommet sur la Nouvelle-Calédonie convoqué à Paris par le président de la République à partir du 2 juillet sera déterminant pour l'avenir. Ils sont donc 17% à penser qu'il ne sera pas déterminant. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. L'actualité politique, justement, et la proposition de Manuel Valls doit servir de plancher de négociation pour la suite des échanges. C'est la position de l'Union calédonienne à quelques jours du sommet de Paris. Le mouvement réunissait hier sa commission exécutive élargie pour préparer la convention du FLNKS qui se tiendra demain, le 28 juin, à Puebo et pour donner suite à l'invitation du président de la République. L'Union calédonienne réaffirme la nécessité de poursuite du dialogue et elle prend acte du projet posé par le ministre Manuel Valls au nom de l'État. Elle souligne que ce projet a recueilli l'approbation de la majorité des délégations présentes à Deva et qu'il constitue, je cite, la dernière étape vers la souveraineté. L'UC prend acte également d'un espace d'échange sur la situation économique et sociétale, mais elle affirme rester vigilante sur le format et les parties prenantes à ces discussions. Elle réaffirme enfin que la stabilité nécessaire à la reprise d'activité économique ne pourra être garantie qu'à la condition qu'une solution politique soit trouvée, solution qui, pour elle, doit mener vers l'affirmation de la souveraineté. Fin de citation de ce communiqué. Et puis c'est Didier Leroux qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, chef d'entreprise, ancien élu de la province sud et du Congrès, président de plusieurs partis non indépendantistes, candidat à plusieurs reprises aux élections législatives et délégué régional de François Bayrou et du Modem en Nouvelle-Calédonie. Didier Leroux reste un observateur attentif de la vie politique et économique calédonienne. Il sera interrogé sur l'analyse qu'il fait de la situation plus d'un an après les violences de mai 2024 et à quelques jours du sommet de Paris. Didier Leroux, invité de Transparence, est donc à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et enfin, en bref, je rappelle que France de Bien, dit Poupoune, est décédé le 25 juin à l'âge de 80 ans. Lors du meeting des partisans de la France avant-hier à Païta, une minute de silence a été observée à la mémoire de cette figure de la brousse et du RPCR. Une veillée s'est déroulée hier soir au centre funéraire de Nouméa. L'inhumation se déroulera au cimetière de Vaux. Ce sera donc demain à 9h. Il est 6h43. Vous écoutez Radio Rythme Bleu après la publicité, la suite de l'actualité sur le territoire et notamment la séance du congrès d'hier avec deux textes en seconde lecture.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chez Canel, une bonne connexion, ça se partage. Parrainez un proche et recevez jusqu'à 3 mois d'abonnement offert. Facile et rapide, dépêchez-vous. L'offre est valable jusqu'au 30 juin seulement. Parrainez dès maintenant sur canel.nc.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foix et Conné.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec cet incendie qui a donc pris hier après-midi sur la commune du Mont-d'Or. Il s'agit d'une maison brûlée à Yaoué. Les pompiers ont éteint les flammes en un peu plus d'une heure, mais leur travail a été compliqué par le terrain difficile d'accès. Une enquête a donc été ouverte, mais la piste criminelle est privilégiée. Les éléments laissent à penser que l'incendie pourrait faire suite à un cambriolage. Dans l'actualité institutionnelle, je le disais, deux textes à l'ordre du jour de la séance publique du Congrès. Le premier projet de loi du pays est relatif à la création d'une taxe sur les croisiéristes. Un texte déposé en 2023 et adopté le 2 mai 2024 à la majorité. Mais une demande de seconde lecture a été déposée par le président de la province Nord, Paul Néoutine, Léo Fichou.
Le débat portait sur l'affectation du produit de cette taxe payée par les passagers des bateaux de croisière. Dans le texte du gouvernement, la majorité de la taxe est affectée à un fonds de développement et de promotion du tourisme de croisière qu'il a reversé aux communes, aux provinces sud et îles et dans une moindre mesure à la province Nord. Le groupe Uni a donc déposé un amendement à la demande du président de la province Nord, Paul Néaoutine, qui souhaite que la taxe soit reversée à la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir en bénéficier à hauteur de la clé de répartition. L'amendement de l'Uni a été rejeté. Le texte a été adopté avec 33 voix des groupes UC, FLNKS et nationalistes et des groupes loyalistes et rassemblements. Seul changement par rapport à celui adopté en 2024, un amendement permettra au Congrès de revoir la répartition de l'affectation de la taxe chaque année en fonction des résultats.
Et la deuxième loi du pays porte sur le domaine public de l'eau de la Nouvelle-Calédonie et la protection de la ressource en eau.
Le texte a été adopté en avril dernier, mais 18 conseillers loyalistes et rassemblements ont déposé une demande de seconde lecture, estimant que le texte entraîner une discrimination entre les terres de droit privé et les terres coutumières qui échappent à la réglementation. Philippe Blaise a pris la parole pour les loyalistes.
Le texte, il reste extrêmement choquant et dangereux. C'est-à-dire qu'en arguant de la loi organique qui dit qu'il y a des terres coutumières sur lesquelles la Calédonie ne peut pas légiférer, on ouvre la porte à n'importe quoi. C'est-à-dire que l'eau qui circule dans les cours d'eau, si vous êtes sur une terre privée, alors là, le gouvernement va vous tomber dessus pour vous encadrer. Mais si vous faites des prélèvements, vous êtes sur terre coutumière, là, il n'y a plus rien. Ça crée une situation qui est perverse, où on va encourager de fait des prélèvements abusifs là où on est sur terre coutumière. Et derrière, on peut très bien avoir des filières de vente d'eau qui vont se faire de façon privée, alors que tout ça n'est pas encadré. Le gouvernement a décidé de ne pas encadrer l'usage de l'eau. Et il aurait très bien pu le faire. Donc en fait, c'est un choix volontaire de Jérémy Catidjo et de son groupe Calédonie Ensemble de fermer les yeux là-dessus et de refuser d'encadrer l'utilisation commerciale potentielle de l'eau prélevée sur terre coutumière.
Jérémy Catidjo-Monnier, membre du gouvernement en charge notamment de la politique de l'eau, a évoqué l'avis du Conseil d'État qui s'appuie sur la loi organique pour dire que la Nouvelle-Calédonie est compétente sur l'ensemble du domaine public, mais pas sur les terres coutumières. Le texte a été adopté dans les mêmes termes qu'en première lecture en avril dernier. Seuls les loyalistes et le Rassemblement ont voté contre.
L'Institut universitaire de technologie célébrait hier soir ses 10 ans sur le campus de Nouville. Une décennie consacrée à la formation de jeunes Calédoniens en lien avec les besoins des entreprises locales, Léo.
Depuis sa création, près de 1800 étudiants ont été formés au sein de ces deux départements, gestion des entreprises et des administrations et métiers du multimédia. L'événement a réuni autour d'un buffet les acteurs de cette réussite, entreprises partenaires, anciens élèves, membres de l'université et de l'équipe pédagogique. Un chemin collectif dont Sandrine Gravier, directrice de l'IUT, se dit fière.
L'IUT est vraiment devenu un acteur important de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie. On a la chance d'avoir maintenant de nombreux diplômés, hein, plus de 700 diplômés depuis les 10 dernières années, qui ont des parcours vraiment inspirants. Ils sont insérés professionnellement et je pense qu'on est vraiment fiers de l'IUT et de ses étudiants et de ses alumni. Ça permet de donner l'accès aux études supérieures et ça permet aussi d'avoir des formations qui répondent vraiment aux besoins des entreprises locales. Puisque cet ancrage territorial est vraiment important et vraiment marqué dans les IUT, on adapte nos programmes pour correspondre aux besoins des entreprises.
Et parmi les anciens élèves présents hier soir, Jean Massot, aujourd'hui âgé de 27 ans, il faisait partie de la première promotion du BUT métier du multimédia et de l'Internet en 2016. Un parcours qu'il juge déterminant pour la suite de sa carrière.
C'était vraiment de l'exploration, de s'orienter côté multimédia. Et ce qui m'a interpellé, c'est tout ce qui est métier de l'Internet, c'est-à-dire tout ce qui est web. C'est l'IUT qui m'a fait découvrir ça et je suis resté accroché à ce métier-là. Et du coup, j'ai continué. Maintenant, je suis développeur web. J'ai travaillé quelques années avant et maintenant, je suis de retour ici à l'IUT pour essayer de gagner un peu plus en compétences. Et ce qui est assez percutant ici à l'IUT, en fait, on apporte de la modernité dans ce qui est aussi très ancien. Alors, là, on est dans des anciens bâtiments du bagne. Ça lie un peu la modernité et ça, c'est resté. C'est le cœur de l'IUT. C'est bon de voir que 10 ans plus tard, ils sont restés toujours sur cette optique-là et que ça marche finalement. Peut-être qu'il y a encore des améliorations, mais l'âme de l'IUT est restée 10 ans plus tard.
L'Institut se projette désormais sur l'ouverture d'un troisième département, génie électrique et informatique industrielle. Un élargissement vers l'industrie prévu pour la rentrée 2027.
Merci Léo Fichou, il est 6h passé de 50 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, on marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole marquée par de violents orages.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Très bonne nouvelle, le passeport gourmand lance sa 22e édition. Profitez de réductions jusqu'à moins 50% dans une sélection de restaurants, snacking, traiteurs, mais aussi des loisirs et du bien-être partout en Calédonie. Le passeport gourmand, c'est votre guide de découverte prestigieux, idéal pour les bons vivants et les gourmands du caillou. Disponible dès maintenant en édition limitée, alors ne tardez pas, réservez le vôtre sur www.passeportgourmand.nc ou directement au bureau à Val-Plaisance. Renseignements au 25 25 02.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Le spray nasal décongestionnant pur essentiel dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est la solution naturelle à l'efficacité cliniquement prouvée. Dispositif médical dès 3 ans en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Nouveau, pour soulager tout grasse et tout sèche, découvrez les comprimés tout pur essentiel.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
On vous souhaite un bon début de journée. La suite du journal, on retrouve Nicolas Legrand.
Et ces orages meurtris en métropole, ils ont traversé quasiment tout l'hexagone, d'est en ouest, après une vague de chaleur. Bilan, 2 morts, 17 blessés et encore près de 70 000 foyers privés de courant et des dégâts considérables. Direction le sud-ouest, près de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, où l'on déplore la mort d'un garçon de 12 ans. Le reportage d'Alexis Bourdon pour Europe 1.
Sur le pont du Gué de Piquecos, les stigmates du passage orageux sont encore visibles. Les arbres ont été soufflés par la force du vent et les branches gisent un peu partout sur le sol. C'est là qu'un jeune garçon est mort la nuit dernière, Christelle Garcia, mère de Piquecos.
C'était un enfant de 12 ans qui a perdu la vie hier soir suite à une chute de 2 arbres. Ce jeune homme était accompagné de ses 3 petites sœurs qui, elles, ont eu le temps de regagner la voiture. Malheureusement, lui n'a pas eu cette chance-là.
Malgré des panneaux interdisant la baignade, ce cours d'eau est prisé des habitants en période de forte chaleur, comme Martine qui habite le village voisin. Cette grand-mère d'un garçon de 12 ans ne peut s'empêcher de partager la peine de la famille.
C'est très triste. Je pense que voilà, ils n'ont pas fait attention à l'orage qui est arrivé. Et là, quand le vent a soufflé, c'était déjà trop tard, quoi. En tant que mamie ou que maman, on se dit, mais comment les parents, les pauvres, c'est une famille qui est dévastée, là.
Les 3 sœurs de la victime présentes au moment de l'accident ont été blessées. Elles ont été transportées au CHU de Montauban. Piquecos, Alexis Bourdon, Europe 1.
Et l'autre personne décédée est un homme conduisant un quad qui a été victime de la chute d'un arbre en Mayenne. Dans le reste de l'actualité, le parquet de Paris s'est saisi de l'enquête après la mort d'une enfant de 12 ans et l'intoxication sévère de 23 autres personnes. Une cellule téléphonique a été mise en place et reçoit une centaine d'appels par jour de personnes qui pensent avoir été touchées par cette bactérie E. coli. Il s'agit d'intoxication alimentaire. Écoutez le ministre de la Santé, Yannick Neuder.
Toutes les fois qu'un nouveau cas est découvert, eh bien, il y a 30 agents qui sont de la direction départementale de la protection des populations qui remontent toute la chaîne alimentaire. Nous avons un peu plus donc, de 20 enfants qui sont concernés, avec une personne âgée concernée. Et nous avons encore, à l'heure où je vous parle, une cinquantaine de diarrhées hémorragiques par jour qui sont pris en charge par des filières spécifiques, notamment à l'hôpital de Saint-Quentin. Et puis, dans un certain nombre de cas, ces diarrhées peuvent aller dans une phase supérieure qu'on appelle le syndrome hémolytique et urémique, qui nécessite une prise en charge en dialyse de ces jeunes patients. Et ces dialyses sont à ce moment-là effectuées sur Amiens, sur Lille et sur Reims.
Quatre boucheries ont été fermées préventivement. Les analyses sont attendues d'ici le week-end. En bref, l'actualité judiciaire est le meurtrier d'Alban Gervais, reconnu pénalement irresponsable. La chambre de l'instruction considère que le mis en cause était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant atteint son discernement ou le contrôle de ses actes. En 2022, il a tué à coups de couteau ce médecin militaire devant l'école de ses enfants. L'actualité politique, François Bayrou s'est exprimé après le conclave sur les retraites. Le Premier ministre donnait une conférence de presse cette nuit pour nous. Et pour tenter de défendre son bilan après près de 6 mois de discussion, il souligne des avancées, même si aucun accord n'a été trouvé. Il refuse de parler d'échec, estimant qu'un compromis est encore à portée de main. François Bayrou a d'ailleurs décidé de relancer les discussions sur certains sujets. Reste maintenant à savoir si ça suffira pour éviter la censure, Arthur Delaborde.
Effectivement, en tout cas, avant même la conférence de presse du Premier ministre, les députés socialistes ont déposé leur motion de censure avec l'objectif de sanctionner sa méthode sur les retraites, d'où ce message adressé par François Bayrou.
Je n'imagine pas que le parti de Jacques Delors et de Michel Rocard, par exemple, pour ne citer que ceux qui ne sont plus là, puissent considérer que c'est objet de censure.
Les annonces de François Bayrou sur les retraites ne contrarient en rien notre souhait de le censurer, a immédiatement répondu le Parti Socialiste. Le Premier ministre règle par ailleurs ses comptes avec ceux qui considèrent, y compris au sein de son gouvernement, qu'il ne cherche qu'à gagner du temps pour rester à Matignon.
Que voulez-vous, la malveillance est plus répandue que la lucidité.
Et selon un sondage publié aujourd'hui, 2 Français sur 3 considèrent que le Premier ministre ne finira pas l'année à Matignon. Mais ce n'est pas un motif d'inquiétude, affirme François Bayrou.
Mon travail, à moi, notre mission à nous, les ministres qui sont là avec moi, c'est de répondre aux questions qui se posent et aux enjeux du pays sans rechercher, si j'ose dire, la sécurité de l'emploi.
Sécurité de l'emploi, a priori assurée pour François Bayrou à Matignon jusqu'à l'examen du budget cet automne, puisque la motion de censure déposée par le PS a très peu de chances d'être adoptée, étant donné que le RN a fait savoir qu'il ne la voterait pas.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Radio Rythme Bleu, 6h55.
À l'étranger, le Pentagone repart à la charge pour vanter son opération militaire en Iran. Je rappelle que CNN et le New York Times ont déclaré que les bombes GBU-57 n'avaient que peu endommagé les infrastructures et retardé de seulement quelques mois le programme nucléaire iranien, et qu'à la télévision, l'ayatollah Khamenei affirme que les sites nucléaires iraniens ne sont pas perturbés et il revendique même la victoire. C'est donc désormais une véritable bataille de communication alors que les combats ont cessé sur le terrain. Cette nuit pour nous, le département de la Défense s'en est pris aux médias américains et a salué la réussite de l'opération. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, n'a pas manqué d'éloges.
Grâce à une action militaire décisive, le président Trump a créé les conditions pour mettre fin à la guerre, en décimant, en anéantissant, en détruisant les capacités nucléaires de l'Iran. Le président Trump a dirigé l'opération militaire la plus complexe et la plus secrète de l'histoire, qui s'est soldée par un succès retentissant, aboutissant à un accord de cessez-le-feu et à la fin d'une guerre de 12 jours.
Et le chef d'état-major américain assure de son côté que les bombes anti-bunker des bombardiers B-2 ont atteint leur cible et ont fonctionné comme prévu. Il est 6h57, on marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
À Koné, il y a du nouveau. Autofast arrive chez NC Motors dès le 2 juin. Et en ce moment, 3 pneus achetés, le 4e est offert. Oui, offert, c'est le moment de changer vos pneus avec un service efficace et près de chez vous. Autofast Koné, 46 61 61. Ouverture le 2 juin chez NC Motors. Offre valable jusqu'au 30 juin sur l'ensemble des pneus disponibles en stock. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Envie d'une pause déjeuner à l'Escale Château Royal? Du lundi au vendredi, votre restaurant L'Escale vous propose sa formule déjeuner comprenant un plat, un dessert, un café ou un thé pour 3900 francs seulement. 3 suggestions vous seront proposées afin de satisfaire vos envies du moment. Important, votre restaurant prend de la hauteur. L'Escale s'installe temporairement à l'étage, au même niveau que la réception. Réservez dès maintenant au 23 01 30 et retrouvez plus d'infos sur notre page Facebook Château Royal.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
En cyclisme, Bruno Amirail est champion de France du contre-la-montre pour la 3e fois de sa carrière, Léo Fichon.
Le coureur de la team Decathlon AG2R La Mondiale a devancé Kevin Vauquelin et son coéquipier, le jeune Paul Sexas, 18 ans seulement. Un objectif atteint pour Bruno Amirail.
C'était un des objectifs de la saison, après il y a le Tour de France aussi, qui est un très gros objectif pour moi et pour l'équipe. J'avais plus préparé le tour que le championnat, mais vu que ça grimpait, finalement, je pense que je ne me suis pas trop mal sorti. Sincèrement, j'aurais bien aimé un parcours un peu plus long. Je pense que j'aurais pu tenir sur une longueur plus longue la même puissance. Mais voilà, l'objectif, c'était de gagner. C'est chose faite. Donc voilà. Mais c'est vrai que Paul, il fait 3e. Et à 18 ans, c'est quand même très beau. Et je pense qu'il va en gagner quelques-uns avec Kevin. Je pense que ça va être une belle bataille pendant quelques années.
Ce week-end, place à la course en ligne. Une boucle de 16,5 km à parcourir 16 fois, soit 264 km. Départ à 20h35, heure de Nouméa, ce sera dimanche.
Du tennis et la fin cette nuit des qualifications à Wimbledon.
5 Français ont remporté leur 3e tour des qualifs. 5 Français sur les 26 engagés en début de semaine. Elsa Jacquemot, Gian Parry, Adrien Manarino, Valentin Royer et Arthur Cazot ont décroché leur billet pour le tableau principal du 3e tournoi du Grand Chelem de la saison. Tableau principal qui comptera donc 15 tricolores, 3 femmes et 12 hommes.
On va parler un peu de football. Léo Fichou, avec les 4 derniers matchs ce matin des phases de poule de la Coupe du Monde des clubs.
Dans le groupe G, tout est déjà joué ou presque. La Juventus de Turin et Manchester City sont déjà qualifiés. Seul enjeu de la rencontre entre les deux équipes, la première place du groupe. Dans l'autre match, Wydad et Al Ain ont tous deux perdu les deux premières rencontres. 0 point au compteur. Ils s'affrontent donc pour sauver l'honneur. Les rencontres ont débuté à 6h, c'est donc la mi-temps. Manchester City mène 2-1 face à la Juventus. Il y a un partout entre Wydad et Al Ain. Dans le groupe H, les matchs se joueront à 12h. Al Hilal affrontera Pachuca. Le Red Bull Salzbourg sera opposé au Real Madrid.
Et puis du sport sur le territoire avec du rugby ce soir et la finale de la Coupe à 10. Le rugby club du Mont d'Or sera opposé à l'Olympique de Nouméa. Une finale qui se jouera dès 19h30 au stade de Rivière-Salée.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin sur l'extrême sud vers Bélep et par moments sur le sud-ouest, le ciel sera nuageux avec quelques averses. Ailleurs, alternance entre nuages et belles éclaircies. Sur le sud, le vent lui orienté sud-sud-est entre 5 et 10 nœuds pour ce matin. Sur le nord, orienté sud-est, 10 à 15 nœuds, voire 15 à 20 nœuds sur le nord-ouest en fin de matinée. Cet après-midi, hormis sur le nord-est, le ciel sera souvent très nuageux par endroits et quelques ondées plus fréquentes sur l'extrême sud et à proximité du relief. Retour de l'Alizée sur le sud-est s'établira autour des 15 nœuds, voire 20 nœuds sur le nord-ouest. Le mercure entre 24 et 26 degrés sur l'ensemble du territoire.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.